C'est quand la dernière fois que vous avez entendu de la musique populaire en allumant votre radio? C'est quand Michael Jackson était encore noir? The Cure?
J'essaie d'écouter les infos. J'aimerais bien savoir si ta joyeuse bande de copains de Camden fait la une.
Vous écoutez les infos?
T'as un problème avec les infos aussi?
Ah ouais, moi j'ai un méchant problème avec les infos. Écoutez bien, l'information est totalement manipulée.
Canu Info.
Radio Canu, 102.2.
Bonjour.
Ah, bonsoir.
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 Bonsoir. C'est l'heure du Canu Info.
Les Canu Info.
Canu Info.
Du mercredi.
Je ne sais pas bien quelle heure à l'heure où j'enregistre ça, puisque nous avons repris les Canu Info à distance et donc préenregistrés. Et cela ne va pas nous empêcher ce soir de parler de tout un tas de trucs. D'abord, on aura l'interview d'une toubibe de l'hôpital de Saint-Étienne qui nous parlera de, pareil, je ne sais pas encore de quoi, parce que je n'ai pas encore entendu l'interview. Et puis, figurez-vous qu'il n'y a pas que les flics qui ont le droit de tuer pendant le confinement. Les chasseurs sont eux aussi lâchés en toute liberté dans nos campagnes. Après, on aura l'interview de quelqu'un du planning familial à propos, d'une part, de l'allongement qui date déjà d'il y a quelques semaines des délais de l'IVG en France, mais à propos aussi, et c'est moins drôle, de la quasi-interdiction de ce même IVG en Pologne. Et puis, des promesses à la Macron, la Convention citoyenne pour le climat est enterrée vivante. On verra avec un peu plus de détails. Il n'y a pas que aux États-Unis qu'il y a des présidentielles, il y a aussi en Côte d'Ivoire qui en a eu ce week-end. Et ma foi, ça n'a pas l'air beaucoup plus joyeux, le résultat et les risques que ça barde dans les temps qui viennent. 550 migrants interceptés et ramenés en Libye par les gardes-côtes libyens en 48 heures. Ça non plus, ça fait pas rigoler. En Algérie, le président se prend en même temps un Covid et une claque populaire. Ah bah ça, c'est une meilleure nouvelle. Et puis on terminera avec un petit conseil de lecture, un petit article à retrouver sur le site lundi matin.
Canu Info. Du mercredi.
Commençons par une brève. Le Conseil des ministres vient de prononcer la dissolution du groupe fasciste turc qui est actif à l'international et entre autres en France, les Loups Gris. Ils ont fait parler d'eux, en particulier la semaine dernière, en tentant d'attaquer des Arméniens, particulièrement par ici, dans le coin, là, comme à Dessine ou à Vienne. Dans les faits, je suis pas du tout certain que les Loups Gris aient eu jusque-là une existence légale en France et donc que leur dissolution serve réellement à quelque chose, mais enfin bon, c'est toujours bon à prendre, hein. Ce qui fait rigoler quand même dans cette histoire, c'est Darmanin, qui justifie cette dissolution des Loups Gris en disant que les Loups Gris sont un groupe qui, ouvrez les guillemets, je cite, qui incite à la discrimination et à la haine. Ben dis donc, c'est que quand on se repasse tout ce que les ministres et notoirement Darmanin ont dit depuis deux semaines sur les musulmans et leurs complices, hein, les complices et les islamo-gauchistes, dont sont certainement nous, sur les rayons communautaires dans les supermarchés. Alors non, ne vous trompez pas. Darmanin ne parlait pas des rayons communautaires catholiques avec les ventes de crèches pour Noël ou je sais pas quoi. Il parlait bien des rayons halal. Et j'en passe. On se dit que l'incitation à la discrimination et à la haine, ça nous semblerait une sacrément bonne raison pour dissoudre sans plus attendre ce gouvernement.
Masque.
Virus.
Test.
Contagiosité.
Comorbidité.
Respirateur.
Symptômes. Charge virale. Chloroquine.
C'est quoi l'épidémiologie?
Patient. Patiente. guérison, coronavirus.
Interview aujourd'hui avec une médecin de la PASS à Saint-Étienne. Alors, est-ce que tu peux nous dire la situation actuelle dans les secteurs de réanimation des hôpitaux de Saint-Étienne et aussi quelles contraintes cela amène aux autres secteurs ?
Moi, je suis médecin et je travaille au CHU de Saint-Étienne. Alors, pas depuis très longtemps, du coup, c'est pas un hôpital que je connais très bien. En tout cas, la réanimation, en ce moment, elle est pleine, grosso modo. Avec quand même des possibilités, a priori, qu'il y ait plus de lits, mais on n'est pas du tout sur un moment, on va dire, confortable, où il y a de la place en réanimation, quoi. Plutôt au contraire. Après, ce qui se passe maintenant, c'est que c'est pas que sur la réanimation que ça joue, c'est vraiment plutôt sur le nombre de personnes qui sont hospitalisées mais qui n'ont pas besoin d'être mis sous respirateur mais sous masque à oxygène et qui, eux, nécessitent des places en lit d'hôpitaux. Parce que c'est des gens qui vont avoir besoin d'oxygène au masque mais qui sont à risque qui sont, on va dire, à haut risque de s'aggraver d'un coup et que là, du coup, il faut vite réagir et les passer en réanimation et les intuber. Et du coup, concrètement, ce que ça représente, ça veut dire qu'il y a tout un tas de services qui sont fermés et transformés en unités Covid. Du coup, ça fait quand même un petit bordel ambiant qui est que, du coup, par exemple, tu as une unité de dermatologie qui va fermer ou une unité d'endocrinologie qui va fermer et toutes les personnes qui bossent à l'intérieur vont se retrouver, en gros, à bosser avec des personnes atteintes du Covid sous forme grave, ça veut dire plutôt de bosser avec des gens qui sont malades au niveau respiratoire, avec quand même tout un tas de connaissances thérapeutiques, médicales, de soins qui ne sont pas forcément habituelles, et une formation, on va dire, sur le tas qui se fait plus ou moins bien. Et en plus de ça, ça fait que dans d'autres services qui vont dits être moins prioritaires ou considérés non en tension, ce qui est une grosse connerie parce que grosso modo, tous les services à l'hôpital sont tous en tension de base avec une saturation, on va dire, du passage qui est déjà atteint depuis des années, en gros, et ben ils vont quand même détacher des travailleurs de certains services pour aller renforcer les unités Covid. Avec, on va dire, le premier truc qu'ils font, c'est augmenter, en gros, toutes les personnes qui sont à temps partiel sont obligées de passer à temps plein, et après, des réquisitions qui tombent, quoi. Du coup, ça fait que moi, par exemple, mes collègues infirmières et soignantes, il y a leur cadre qui vient les voir et qui leur dit « Bon, bah, maintenant, tu passes à 100% et puis lundi, tu vas aller bosser tu vas aller bosser dans le secteur des personnes hémophiles parce que l'infirmière des secteurs hémophiles qui était à mi-temps, bah, elle va passer à plein temps sur une unité Covid. » Enfin bref, en gros, ça fait de la réorganisation comme ça, quoi.
Quand tu dis donc que c'est plein, ça veut dire que là, si dans les prochains jours, il y a de nouveaux patients Covid, ils peuvent arriver à l'hôpital et être pris en charge. Et est-ce qu'il y a une situation de crise d'imaginer potentiellement à un moment donné qu'il n'y ait plus de possibilités d'admission ?
Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que, en gros, parce que c'est sûr que dire en fait, il y a déjà plein d'unités Covid qui sont ouvertes et qui sont pleines, et la réanimation a ouvert plus de lits, et elles sont pleines, c'est sûr qu'on se demande forcément, oh là là, mais on n'est pas en haut du pic, du coup, qu'est-ce qui va se passer pour les gens malades qui arrivent aux urgences et qui ont besoin d'être hospitalisés ? Eh bien, je ne sais pas. Alors après, moi, il faut savoir, hein, je suis médecin à 30% à l'hosto, j'ai pas du tout accès à toutes les infos. Les infos qu'on a, ça reste des infos très... donné par les directions hospitalières, quoi, les cadres, on va dire les hauts cadres dirigeants des hostos, là, qui donnent des consignes. Mais tout ça, c'est des choix politiques, et finalement, ils informent globalement très peu, mais aussi parce que je pense qu'ils sont quand même bien dans la merde et qui goupillent pas mal à l'arrache. Par exemple, nous, on ne nous a pas encore parlé d'installer des hôpitaux militaires, là. Mais il y a plusieurs travailleurs avec qui je bosse là à l'hôpital où c'est un peu le truc qui tourne dans les têtes. Moi, la question que j'ai, par exemple, là, sur laquelle j'aimerais bien me renseigner, c'est plutôt comment dans les EHPAD. Parce que là, le gros des clusters et le gros des épidémies, quand même, on va dire 80% là où ça flambe l'épidémie, où ça se transmet et où les gens meurent, c'est vraiment les EHPAD dans la Loire et en Auvergne-Rhône-Alpes en général. C'est des personnes qui sont pas transférés, grosso modo, à l'hôpital, ou très peu transférés. Du coup, ça veut dire qu'ils gèrent tout à l'intérieur des EHPAD, et je ne comprends pas comment ils arrivent à tenir le coup. C'est une vraie question de comment ils font pour que les gens aient accès à de l'oxygène, à la cortisone, et puis en fait à des personnes qui s'occupent des gens et qui les surveillent, quoi.
Quelles sont les consignes de votre direction en cette période? J'imagine que vous avez fait des réunions de crise.
C'est quand même une information qui arrive relativement au compte-gouttes, hein, qui, je te dis, passe par, grosso modo, les cadres aux dirigeants, qui transmettent aux cadres intermédiaires, qui ensuite transmettent aux équipes. Et ils répartissent un peu comme ils répartissent. Et ça, c'est des infos, par exemple, à mes collègues, elles ont appris hier où est-ce qu'elles allaient bosser demain. D'arriver, du coup, où tu bosses dans les unités Covid, où les cadres disent, bien sûr, vous allez être formés, il y aura du tuilage, ça veut dire que quelqu'un qui a déjà fait le poste sur lequel tu es affecté, qui va être là pour un petit peu t'expliquer les manips, que ça soit comprendre les prescriptions, le logiciel, comprendre un petit peu les enjeux de surveillance, de soins, etc. Bah, grosso modo, là, les deux collègues, elles y sont arrivées, elles étaient bazardées toutes seules. Et elles sont ressorties de leurs 3 jours de taf en mode super mal, super, super dans la culpabilité d'avoir peur d'avoir mal fait, vachement confrontée aussi, ce qu'elle disait, à la solitude des gens. T'as à la fois toute l'angoisse liée à cette maladie, et par le côté médiatique, et par le côté épidémique, et par le fait que c'est une maladie respiratoire. Du coup, c'est quand même assez angoissant, là. L'idée de manquer d'air, c'est forcément angoissant. Et en plus, le fait qu'il y a très... Bah, de fait, il n'y a pas de passage. Enfin, les proches, ils ne viennent pas dans les unités Covid. Du coup, tu as tout ça à gérer sans formation. Et elle disait que d'habitude, elles arrivent à faire le tri et à rentrer chez elles et à ne pas avoir la tête trop prise par le boulot, et que là elles n'y arrivent pas. Après, au niveau des autres consignes là, qui sont données, et ça, je trouve, ça fait partie des bouts vachement intéressant et dégueulasse en même temps, c'est vraiment où tu vois bien les techniques de cadre et de managérial, là, c'est-à-dire qu'il y a une réunion d'information il y a à peu près 10 jours, d'information sur le Covid, et du coup, tout un topo médical, les nouvelles thérapeutiques, etc., nanana. Et à la toute fin de la réunion, où tu vois les gens commencent à se casser, etc., du coup, on était, je sais pas, 60-70, t'as la médecin du travail... qui prend la parole et qui dit « Oui, bon, aussi, sinon, pour les consignes au niveau des arrêts de travail, on teste, hein, voilà, nanana, et puis, mais bon, de toute façon, hein, à partir du moment où y a des travailleurs qui sont testés Covid plus, mais qui sont sans symptômes, faut quand même aller bosser, quoi. » Et puis là, t'as quand même 2-3 personnes qui réalisent, qui disent « Ah bon, bah, c'est quand même... » C'est quand même emmerdant, c'est un peu bizarre. Et puis du coup, elle se reprend, elle dit non, mais ça, c'est si vraiment tout le monde est en arrêt de travail, parce que bon, bah, la machine, elle ne pourra pas tourner. Hein, si y a la moitié, bah, on le sait, hein, que grosso modo, la moitié des travailleurs de l'hôpital, de toute façon, ils vont choper le Covid. Du coup, bah, on ne peut pas s'autoriser la perte de la moitié des travailleurs. Du coup, il faudra bien aller bosser. Du coup, ça râle un peu, puis elle revient dessus en disant non, mais non, quoi. La semaine d'après, moi, j'ai une collègue qui va se faire tester, et à la médecine du travail, du coup, médecine du travail au CHU, hein, je sais pas comment dire, c'était à l'intérieur des locaux du CHU, bim, elle se prend son échantillon dans le nez, là, et puis t'as la médecin qui lui dit, bon, de toute façon, hein, si c'est positif, c'est quand même au boulot, hein, si vous n'avez pas de symptômes, point. Et puis elle la laisse repartir comme ça. Et tu vois bien le mécanisme, quoi, qui est vraiment de dire on commence à instiller l'information tout en disant mais non. Mais n'empêche qu'elle commence déjà à être prise aussi dans les médias au niveau national, que ça va être des directives que tu donnes. Et puis après, tu dis mais non, vous inquiétez pas, c'est pas vrai. Mais que moi, je suis sûre que dans très peu de temps, ça va être une consigne très officielle et qui sera applicable. Alors que c'est très grave, hein, parce que d'aller faire bosser des gens qui bossent dans le secteur du soin avec le Covid, d'un point de vue sanitaire, ça propage forcément l'épidémie. On sait que c'est un des principaux vecteurs de propagation du virus. Et puis deux, t'augmentes, pour les personnes qui bossent, et tu t'augmentes ton exposition au virus, donc à la charge virale. Et a priori, plus tu es exposé à une charge virale haute, plus tu es à risque des formes graves. Voilà. Du coup, bah, c'est assez dégueulasse.
Comment, par rapport à ces mesures-là que tu viens de citer, réagit le personnel des gens que tu as rencontrés? Est-ce que beaucoup de soignants sont à bout en ce moment?
J'ai vu là des collègues qui, à la base, étaient plutôt motivés pour aller taffer, enfin qui disaient moi c'est ok, je retourne à taffer dans les unités Covid, ça marche, qui sont revenus vraiment dégoûtés et à dire ouh là, moi j'ai pas du tout envie d'y refoutre les pieds. Donc ça, c'était vraiment par rapport à ce truc d'encadrement, de culpabilité, etc., quoi. Et l'autre chose qui est beaucoup décrite, c'est vraiment l'idée de, au printemps dernier, il y avait quand même un sentiment, une envie de solidarité et d'être présent, ce qui est plus du tout le cas maintenant. Que là, tu sens que les gens, ils sont vraiment plus sur des stratégies d'endurance et d'être dégoûtés, en fait. Et que du coup, il y a vraiment plus, enfin, le besoin de se foutre en arrêt de travail et de se protéger, en fait. Parce que tu sais bien que ça va être pas la direction qui va te protéger, pas les cadres et que tes collègues, si tu essayes de les épargner un peu, enfin. Et à la fois, je sais pas comment dire, moi, je trouve que les gens, ils sont quand même assez costauds, hein. Enfin. Ils continuent quand même, enfin, en tout cas, je vois la plupart des gens qui continuent quand même à les taffer, quoi. Mais avec les boules, quoi. Un truc comme ça.
Personnel hospitalier voudrait des fois juste prendre l'air. 72 heures la journée, trouver une solution budgétaire. Budgétaire. On n'arrêtera pas de travailler, on sera là pour tous nos patients. On veut des coups de main, pas des coups de pied. On le demande depuis 10 ans, que depuis 10 ans. Personnel en dépression, n'a que de revendications. On veut juste gagner notre coup et ne pas crever d'un burn-out. D'un burn-out.
Canu Info du mercredi.
Alors finalement, pour ce confinement de pacotille, tout le monde, enfin les rares dont l'activité est arrêtée malgré les exigences de l'économie, tout le monde nous explique que son activité, c'est pas comme les autres, elle est essentielle et que si elle s'arrête pendant 2 mois, l'épidémie va rebondir d'autant plus parce que son activité, justement, c'est une activité qui fait que c'est pas pareil, voire même pour certaines professions, que le terrorisme va exploser si on maintient, par exemple, la fermeture des librairies. Ouh, alors moi je veux absolument ouvrir mon bar. Ouh, moi je veux monter ma pièce de théâtre. Je veux montrer ma pièce de théâtre. Pas dans 2 mois, mais tout de suite, ou alors je fais caca par terre. Hier, c'était les auto-écoles qui étaient colère, colère, et qui ont fait des manifs, par exemple. Bon, généralement, le gouvernement n'a rien à foutre. Mais pas toujours. Ceux qui ont gagné dans le week-end, c'est les chasseurs. Alors qu'on s'entende bien, la chasse est interdite pendant le confinement, hein, elle reste interdite, ça y a pas de souci, comme les promenades dans les bois par exemple pour tout le monde. Sauf que pour la chasse, et suite au lobbying des fédérations de chasse, dont on sait qu'elles sont un peu chez elles à l'Élysée, quelques dérogations ont été prises lundi. Alors, on a quand même le droit d'aller tirer le grand gibier, les sangliers, les chevreuils. On a le droit de bousiller du nuisible, des renards, des pigeons. La fédération de chasse n'a pas encore obtenu, mais c'est en cours de négociation, le report de la fermeture de la chasse aux lièvres et aux faisans. Bref, si vous habitez à la campagne, vous n'avez pas le droit d'aller vous balader dans les bois. Mais si vous prenez un fusil avec vous, c'est bon, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Alors, vous allez me dire, moi je râle, mais c'est vrai que les sangliers font quand même un sacré dégât et que les paysans, alors par exemple moi j'habite réellement à la campagne et les paysans autour de moi passent du temps à reboucher des trous que font les sangliers en fouissant la terre. Et ça c'est vrai et c'est réellement un problème. Mais alors, qu'est-ce qu'on apprend à l'occasion de ces dérogations pour la chasse? Et on apprend ça grâce à ce bon vieux Alain Bougrain-Dubourg qui nous raconte ça dans un article que j'ai lu sur Reporter. C'est que les sangliers, ceux qui viennent bousiller les champs, eh ben, c'est souvent, bien souvent, des sangliers d'élevage, qui ont été, alors, attirés de toute façon, mais aussi bien souvent qu'on a fait naître exprès, parfois qu'on a importé. Pourquoi? Pour que les chasseurs aient le plaisir de les flinguer. Alors, non, une bonne fois pour toutes, les chasseurs ne régulent pas la faune. Ils font juste n'importe quoi. Ils flinguent à tout va petits oiseaux et ramasseurs de champignons. Et aussi des animaux qu'ils ont eux-mêmes nourris, puis lâchés dans les bois.
Canu Info.
Je m'appelle Margot, je suis au conseil d'administration du planning familial du Rhône.
On est là pour parler de la loi sur l'allongement des délais légaux de l'IVG qui a été discutée et votée à l'Assemblée jeudi 15 octobre. Donc elle a été discutée et votée, mais ça ne veut pas dire qu'elle est adoptée. On va y revenir après. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur son contenu d'abord ?
Alors, c'est une loi qui prend deux avancées assez La première, c'est la suppression de la clause de conscience spécifique qui concernait les IVG. Et la deuxième, c'est l'allongement des délais pour autoriser ces fameuses IVG, ces fameuses interruptions volontaires de grossesse. Alors, la clause de conscience, en fait, tous les médecins, quelles que soient les pratiques médicales qui soient réalisées, ont la possibilité de les refuser si ça rentre en contradiction avec leurs pratiques, enfin, avec leurs convictions philosophiques ou religieuses. Et en fait, concernant les interruptions volontaires de grossesse, il y avait une clause spécifique qui autorisait spécifiquement les médecins à refuser de pratiquer cet acte médical. Ce qui fait qu'en fait, il y a un certain nombre de médecins qui refusaient de pratiquer spécifiquement, et notamment le gynécologue qui refusait de pratiquer spécifiquement les IVG. Donc ça diminue le nombre de praticiens et de praticiennes, et du coup l'accès concret à l'IVG pour les personnes sur le territoire français.
Et là, ils n'auraient plus le droit de refuser.
Voilà. Alors, ils ont toujours le droit de refuser, en fait, parce qu'il y a une clause de conscience qui est générale, qui concerne tous les actes médicaux, en fait, qui est, pas que ce soit dans le serment d'Hippocrate spécifiquement, mais en tout cas, qui protège tous les médecins à ce niveau, pour les autoriser à refuser un acte qu'ils considéreraient comme immoral ou quelque chose comme ça. Par contre, la suppression de cette clause de conscience spécifique sur les IVG, ça sort, en fait, l'IVG d'un acte particulier, en fait. Et du coup, c'est en ça que c'est un signal quand même assez positif pour nous. La deuxième chose, c'est l'allongement des délais. Donc aujourd'hui, dans le cadre actuel de la loi, une personne peut avorter jusqu'à 14 semaines de ce qu'on appelle l'aménorrhée, c'est-à-dire la petite oreille, ou 12 semaines de grossesse. La proposition de loi qui sera proposée, qui reste à être validée au Sénat, allonge de 2 semaines ce délai. Donc on passe à 14 semaines de grossesse ou 16 semaines sans règle.
Et ça, c'est les délais qui sont pratiqués en majorité à l'étranger. Enfin, par exemple, au Royaume-Uni, c'est déjà ces délais-là qui sont appliqués.
Alors, c'est déjà en fait ces délais-là qui sont appliqués dans plusieurs pays européens, notamment l'Espagne, la Hollande, le Royaume-Uni. Et en fait, le truc, c'est que c'est aussi ça allongerait, en fait, ça permettrait à certaines femmes d'avorter en France. Aujourd'hui, on a à peu près 230 000 avortements par an, 230 000 IVG par an en France. Et en fait, il y a près de 5 000 personnes par an qui sont en dehors de ce délai et qui partent du coup avorter à l'étranger. En France, on estime que c'est à peu près 5 000 par an. Et en fait, le souci qu'on a, c'est qu'on pense que cette loi, même si elle envoie un signal très positif avec ça et qu'elle poussera des améliorations sur le terrain, si elle est adoptée, en fait, elle ne réglera pas totalement ce problème des avortements hors délai, des délais dépassés en ce qui concerne la loi française.
Et pourquoi, du coup ?
Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a un manque de place dans les hôpitaux pour les IVG à 12-14 semaines. Donc déjà, dans la loi actuelle, donc on peut faire une IVG jusqu'à 12-14 semaines, mais il y a en fait un certain nombre de médecins qui refusent de les pratiquer. Pour des motifs qui sont soit idéologiques, soit économiques. Parce qu'en fait, par exemple, comme c'est un acte qui est dévalorisé et qui n'est pas obligatoire dans la formation médicale, et ben, il y a beaucoup de médecins qui ne sont pas formés ou qui ne font pas, ou alors en fait qui considèrent que ce n'est pas assez bien payé.
Il y avait aussi une autre partie dans cette loi, c'était d'autoriser les sages-femmes à faire des IVG chirurgicales, du coup.
Ouais, alors ça, une bonne chose aussi, mais encore une fois, en fait, ça nécessite aussi l'accès à un bloc opératoire. Et aujourd'hui, nous, au planning familial du Rhône, on galère toujours à trouver des places dans les blocs pour les personnes qui sont entre 12 et 14 semaines. En fait. Donc, en fait, en repoussant les délais, Nous, ce qu'on espère, c'est que ça va un peu dédramatiser les IVG à 12-14 semaines pour les médecins qui refusent de le faire parce qu'ils considèrent que c'est déjà un peu tard.
Et du coup, c'est une loi qui fait suite à une demande de longue date des plannings familiaux. Est-ce que vous en êtes plutôt satisfaite de la façon dont elle est écrite, des points forts de la loi, ou qu'est-ce que vous en pensez
Il y a des points positifs. Donc, il y a quand même ce recul des délais et cette suppression de la clause de conscience. Donc, ça, c'est vraiment une demande de longue date de notre côté. Donc, ça, c'est plutôt positif. Après, le problème qu'on a, c'est à quel point, en fait, on est connecté à des pratiques sur le terrain. À quel point, en fait, ça va s'inscrire notamment dans la loi de finances qui est discutée actuellement pour, revaloriser sur le plan économique cette pratique.
Mm-hmm.
À quel point ça va être connecté aussi aux subventions dont bénéficient les associations et notamment les DACA. À quel point ça va être connecté à une réforme en profondeur de la formation médicale actuelle pour déjà revaloriser les études de gynéco et puis pour dispenser plus de formation sur les IVG et sur la santé sexuelle des femmes ou des minorités sexuelles de manière générale. Bon, en fait, il y a vraiment un gros travail de fond à faire qui n'est pas dans cette loi, en fait. Par ailleurs, il y a des choses dans cette loi qui se manquent et qui auraient été faciles à faire pour les parlementaires. C'est que là, pendant le confinement, en fait, il y a eu une expérimentation qui a été liée, comme c'était l'état d'urgence sanitaire. En fait, les IVG médicamenteux, donc, qui normalement sont autorisés jusqu'à 7 semaines, là, le délai a été rallongé à 9 semaines. Donc, ce qui a permis, en fait, à pas mal de femmes d'avorter dans des meilleures conditions, sans être obligées de passer par l'hôpital, et avec leur médecine de ville, en fait. Et en fait, on aurait aimé que ça, cette extension à 9 semaines, ça soit inscrit dans cette loi, en fait. Et ça l'est pas. Voilà.
Okay.
Ça permettrait vraiment d'offrir plus de choix aux patients, de répondre aux demandes, de proposer un parcours plus rapide et respectueux de l'intimité des personnes, qui ça éviterait l'hospitalisation, ce qui est souvent un choix des femmes, en fait.
Du coup, la loi, elle a été votée par les députés, d'ailleurs dont ceux d'En Marche, alors que le gouvernement était plutôt défavorable à la loi. On a parlé d'Olivier Véran tout à l'heure, qui est le ministre de la Santé, qui était très défavorable. Et le gouvernement qui a décidé de demander l'avis du Conseil d'éthique, donc qui arrivera quand il arrivera. En attendant, l'Assemblée de médecine, elle a diffusé un communiqué samedi 24, octobre, et un communiqué qui s'oppose à cette loi complètement clairement, puisqu'elle estime que allonger les délais de recours à l'IVG risque d'augmenter les démarches et les manœuvres chirurgicales peuvent être dangereuses. Ses recommandations, c'est de maintenir 12 semaines en rendant l'IVG plus accessible et dans des délais moindres.
Si c'est pas dangereux à l'étranger, je vois pas trop pourquoi ça serait dangereux en France, si c'est pas dangereux en Espagne, si c'est pas dangereux en Hollande, si c'est pas dangereux au Royaume-Uni. Je voudrais dire, alors qu'en France, on n'a pas les capacités techniques.
Et est-ce que tu penses que, du coup, cet argument de allonger les délais légaux, ça allongera les démarches et donc ça va plus freiner les procédures que les accélérer? Est-ce que tu penses qu'il est valable, cet argument-là?
Non, non, au contraire, parce que du coup, en fait, notamment, il y a forcément certaines personnes, enfin, en termes de démarche, en fait, c'est déjà compliqué actuellement en France, par manque de place. Allonger les délais, en fait, ça ferait reculer un petit peu la pression sur les places existantes. Après, c'est sûr que c'est pas suffisant de juste allonger les délais dans la loi. Il faut vraiment mettre les moyens pour que ça soit accessible.
On rejoint maintenant Marion du planning familial du Rhône également, qui nous parle du droit à l'avortement en Pologne, puisque le 22 octobre dernier, le tribunal constitutionnel du pays a décidé de limiter le droit à l'avortement alors qu'il n'était déjà pas très étendu.
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Pologne, c'est une des législations déjà les plus répressives en matière d'avortement. Puisqu'en fait, on peut avorter que dans trois cas spécifiques, en cas de risque de santé pour la mère, en cas, enfin, ils disent mère mais femme, en cas de danger ou malformation au niveau
encore plus en enlevant des cas de possibilité d'avorter en Pologne, notamment s'il y a des malformations graves du fœtus.
Alors ça a conduit les femmes à se déplacer à l'étranger ou à avorter dans des conditions illégales et dangereuses en Pologne?
De toute façon, avant cette décision, on savait déjà qu'il y avait à peu près 2000 avortements légaux en Pologne sur ces trois cas de figure. C'est déjà tout confondu, hein, quels que soient les trois cas que j'ai précités. Mais par contre, on sait de toute façon qu'on a un peu plus de 200 000 avortements qui sont effectués illégalement. Ça, c'est les chiffres qui sont donnés par les organisations féministes en Pologne. Donc, il y a deux cas de figure. Hein. Le premier, les femmes ont l'argent pour pouvoir aller avorter dans les pays limitrophes à la Pologne, hein, et du coup, s'assurer, moyennant argent, d'avoir un avortement dans des conditions sûres et médicalisées. Et du coup, pour celles qui n'ont pas les moyens, elles avortent de manière illégale sur le sol polonais, avec les méthodes qu'on connaissait à l'époque en France, hein, c'est-à-dire en mettant leur vie en danger et en ayant des risques extrêmement importants sur leur santé si l'avortement ne fonctionne pas.
Alors tu le disais, c'est vrai que le contexte n'est pas très propice aux mobilisations, mais malgré tout elles ont été assez impressionnantes en Pologne et dans d'autres pays. Il y a eu quelques mobilisations en France aussi avant le confinement. Est-ce que tu peux revenir un peu sur toutes ces mobilisations?
Alors, du coup, c'est vrai que les manifs, mais comme à chaque fois, en Pologne, à chaque fois qu'elles se mobilisent, c'est juste énorme. C'est-à-dire qu'on a eu des manifs de masse, mais ce qui peut changer aussi un peu en France, c'est que c'est des manifs de masse qui sont quelle que soit la ville. Donc, c'est pas forcément dans les grandes villes qu'il y a eu des mobilisations, il y a eu vraiment une grosse mobilisation, même dans les petites villes en Pologne, et ça a continué. Donc, elles ont fait une grève des femmes qui était juste impressionnante. En France, il y a eu plusieurs mobilisations. Alors, généralement, on était contacté de planning familial par des militantes polonaises qui, vivant en France, voulaient se mobiliser, afficher leur soutien. Donc, il y en a eu à Paris, à Montpellier, à Bordeaux. Et nous, on était censé organiser sur Lyon, en fait, vendredi dernier, un rassemblement qui nous a été refusé par la préfecture, au vu des annonces du président et du premier ministre, et on a essayé de le faire le jeudi avant que ce soit mis en place, mais du coup ça nous a été refusé. Donc ce qui a été fait, c'est que par petits groupes en fait de 6, il y a eu des prises de photos devant le consulat de Pologne à Lyon, avec des pancartes et des photos pour prendre des photos en soutien et les envoyer aux militantes qui se mobilisent en Pologne. Ce qui est assez intéressant à montrer, c'est que même le parti au pouvoir est en train d'essayer un peu de faire profil bas.
Oui, on l'a vu encore aujourd'hui, le gouvernement a annoncé qu'il retardait la mise en œuvre de cette décision. Est-ce que tu penses qu'ils vont définitivement abandonner?
Leur volonté de prendre l'avortement depuis que le parti est arrivé au pouvoir, en fait, c'est la troisième ou quatrième tentative qui est faite, et à chaque fois, ils font face à une mobilisation d'ampleur qui les font reculer. Donc là, ce qu'elles ont montré en termes d'ampleur de mobilisation, ils risquent aussi de reculer. Mais donc, de toute façon, les organisations féministes, elles veulent de toute façon ne pas rester en réaction à chaque fois aux tentatives du gouvernement, mais massivement de demander un élargissement et une légalisation de l'avortement en Pologne. On le voit aussi dans les sondages, hein, que plus en plus de la population polonaise y serait favorable. Donc je pense que de toute façon, elles vont continuer les mobilisations pour arriver à avoir un droit à l'avortement légalisé. Peut-être un petit truc qui est important, si on veut recadrer un peu dans le contexte un peu plus global, il y a deux éléments dans l'exemple polonais qui est assez intéressant, c'est que, comme d'autres pays, en fait, on a eu des appels, notamment du maire de Varsovie, plutôt sur les franges des groupuscules d'extrême droite réactionnaires pour aller sur les manifestations pour le droit à l'avortement pour les perturber, et que quand même on a eu quelques blessés et des arrestations sur certaines manifestations. Donc on voit bien que le risque, il est à chaque fois dans tous les pays avec des mouvements d'extrême droite qui se mobilisent là-dessus, et qu'on est globalement dans un contexte où il y a eu une déclaration commune qui a été signée par 32 pays dont les États-Unis, le Brésil, le Pakistan, l'Indonésie, la Hongrie et la Pologne aussi, qui étaient de dire, en gros, de donner la souveraineté aux États pour choisir ou non de favoriser l'avortement. Et du coup, cette déclaration, c'est un vrai retour en arrière. Et pour le coup, dans le contexte actuel, les réactionnaires, ils se mobilisent pour faire passer des choses en sous-main concernant les droits des femmes et notamment le droit à l'avortement.
Voilà, elle nous rappelle aussi au nom du planning familial que le collectif des droits des femmes tente d'organiser en France, malgré le confinement, une manifestation pour les 21 et 25 novembre pour continuer à soutenir les Polonaises et puis pour le 25 novembre plus particulièrement pour lutter contre les violences faites aux femmes en général.
Info du mercredi.
Vous vous souvenez la Convention citoyenne pour le climat ? Ce machin que Macron avait mis en place suite aux mobilisations des gilets jaunes. L'idée, c'était alors d'un côté de dire que c'est compliqué de faire des mesures écolo parce qu'après tout le monde se met à gueuler. Alors bon, autant que ça soit des personnes prises au hasard qui s'y collent. et d'un autre côté, de créer une instance avec des gens ordinaires, pas des élus, qui répondent, pensait Macron, à la demande de plus de démocratie qui était exprimée par le fort soutien populaire aux Gilets jaunes. Donc, Macron avait créé cette assemblée, 150 personnes, qui devaient se réunir les week-ends pendant quelques mois et proposer des mesures pour la transition écologique. Et puis, bon, je ne veux pas présumer des arrière-pensées de Macron ou du gouvernement, mais certainement des gens ordinaires, dans leur idée, n'allaient pas se risquer à remettre en question leur sacro-saint mode de vie par des mesures trop radicales. Macron avait déjà interdit les pailles en plastique, il pensait sans doute pas que les fameux citoyens et citoyennes allaient faire beaucoup plus que ça. Et il avait donc promis de reprendre les propositions sans filtre et de les transformer en projet de loi. Mais c'est con, les 150 ont pris leur travail carrément à cœur, ont sacrément bossé, se sont méga méga renseignés sur les choses, ont réfléchi comme des dingues et se sont rendus compte des enjeux, des risques réels et de la réalité de la catastrophe climatique, pas à venir mais qui a déjà commencé. Du coup, les propositions ont pas mal dépassé ce que le gouvernement en attendait. Alors, à un moment, Macron avait quand même parlé de trois jokers. Il avait dit trois trucs qu'il aurait la possibilité de laisser tomber dans les propositions. Eh ben, mes petits lapins, on n'en est plus là. Un article du site d'info Reporter nous raconte ce que deviennent les propositions et la colère des citoyennes et des citoyens de la Commission. Alors, dès le premier jour, le président avait écarté, sans s'y attarder du tout, la proposition de limiter la vitesse sur autoroute à 110 km/h. Trop impopulaire. Et puis, on va pas ralentir dans un siècle où tout accélère, les autres pays roulent à 130, on serait plus compétitifs, blabla, vous voyez le tableau. Mais pour le reste, voilà, on va mettre tout ça en place rapidement. Enfin, pas si rapidement finalement, ce sera pas cet automne, c'est la photo coronavirus, hein. Peut-être l'année prochaine plutôt. Bon, en attendant, la photo coronavirus aussi, pour le coup, c'est pas du tout la peine d'attendre l'année prochaine pour réfléchir et arriver directement à une conclusion pratique, et donc filer plein d'argent public, par exemple, au transport aérien, le moyen de transport de très très loin le plus polluant. C'est rigolo parce qu'une fois de temps en temps, pour ce qu'il y a eu info dans les dernières années, je parle du transport aérien et je dis qu'il est vachement plus polluant que les autres moyens de transport. Jusqu'à il y a quelques mois ou peut-être un an, je trouvais très facilement des chiffres qui disaient kilomètres par passager, tant de carbone balancé dans l'atmosphère et qui comparaient vélo, train, avion, tout ça. Mais alors depuis que le lobby des avions s'est mis sur l'affaire, dans la tradition de Marlboro et de Monsanto, s'est mis à produire n'importe quelle étude pour dire n'importe quoi, les chiffres sont beaucoup plus difficiles à trouver, dites donc. En tout cas, d'autres propositions de la Convention citoyenne, et qu'est-ce qu'en a fait le gouvernement? Là, je vais juste lire un petit bout de l'article de Reporter. L'interdiction de la publicité sur les produits polluants, noyée. La baisse de la TVA pour le train, coulée. La suppression des niches fiscales climaticides, coulée. La taxation sur les engrais azotés, alors là, coulée. L'obligation de rénover les logements privés de point de vue isolation thermique pour dépenser moins d'énergie. D'ici 2024, c'est niet. Le moratoire sur la 5G, c'est niet et les citoyens sont traités là-dessus de amish. L'écotaxe sur le trafic aérien, alors là, certainement pas. Cela aurait des impacts délétères, déclarait Jean-Baptiste Djebbari, le secrétaire d'État au transport, lui-même ancien pilote d'avion. Le malus poids automobile, alors lui, a été largement édulcoré, mais les péripéties autour de cette proposition donnent une idée de l'approche du gouvernement. C'est-à-dire qu'ils ont d'abord refusé. Alors l'histoire poids automobile, c'est de dire plus une automobile est lourde et plus vous allez payer de malus, de manière à ce que ça ne soit pas la peine pour transporter une personne de transporter en même temps 2 tonnes de métal. Donc là, l'idée, c'est, et en gros, c'est un truc qui vise les SUV, quoi, les espèces de gros 4x4 de ville, qui sont ultra polluants. Alors, d'abord, le gouvernement a dit « Ah, ça, non, certainement pas ». Et puis, finalement, ils en ont fait autre chose, ils l'ont réduit à un élément de communication en optant pour une mesure que Reporter qualifie de « haut rabais » et de « dilatoire ». À l'origine, là, les citoyens de la Convention là, demandaient un malus à partir de 1 tonne 4. Le gouvernement a dit « Non, en fait, on va faire à partir de 1 tonne 8 ». C'est-à-dire que finalement, ça va concerner 2% des voitures. Dans l'idée de 1 tonne 4, c'était 26%, ce qui fait quand même une sacrée différence. Disons maintenant qu'avec ce truc d'avoir fixé sur une tonne 4, sur une tonne 8, parmi les 20 SUV les plus vendus, aucun ne pèse ce poids. Donc eux, ils passent tous à trave. De plus, la mesure ne sera appliquée qu'en 2022. Il faudrait surtout pas commencer maintenant. Et puis, de toute façon, pour la compenser, le gouvernement a en même temps décidé de diminuer le malus CO2. Donc, à la fin, il n'y a plus rien dans la mesure. Du côté du gouvernement, alors on annonce fièrement avoir mis en œuvre, totalement ou partiellement, 50 des propositions de la Convention. En réalité, sur ces 50, y a peu des mesures importantes, de celles qui auraient vraiment changé quelque chose, et la plupart ont été mises en place, alors ce qu'ils appellent partiellement, c'est-à-dire finalement aseptisées. Par exemple, le moratoire sur les zones commerciales, on ne va pas construire des nouvelles zones commerciales, disait la proposition, finalement s'est transformé en une simple circulaire envoyée au préfet pour leur recommander de, si possible, ne pas artificialiser des terres agricoles, et encore, sauf si c'est pour des hangars de e-commerce, c'est-à-dire Amazon. Autre illustration, le gouvernement veut interdire les vols aériens quand une alternative en train de moins de 2h30 existe. Bon, la convention proposait moins de 4 heures. Ça veut dire que, en gros, de Lyon, vous n'auriez pas pu aller en avion à Marseille, parce que Marseille, vous le faites en train en moins de 4 heures. Bah là, par contre, moins de 2 heures, vous allez carrément pouvoir y aller, aller à Marseille en avion. Une des participantes de la convention nous disait au mois d'octobre: le gouvernement se fout ouvertement de notre gueule. J'ai la sensation d'avoir participé à une grande arnaque pour reverdir le président de la République et lui faire gagner du temps. Il y a quand même 4 à 5 millions d'euros qui ont été dépensés là-dedans. À propos de la loi qui réautorisait les néonicotinoïdes et de la loi ASAP qui attaquait violemment le droit à l'environnement, un autre participant déclarait à Reporter: ça fait désordre quand même. En ce moment, c'est un peu comme un feu d'artifice. On ne sait plus où donner de la tête. Alors du coup, les citoyens envoient une lettre au président. Blabla, nous avons le sentiment de manquer d'un soutien clair et défini de la part de l'exécutif, dont les prises de position nous apparaissent parfois contradictoires. Allez pas croire que Macron les ait snobés hein, avec cette lettre. Il leur a répondu sans tarder. Alors il les remercie pour leur travail qu'ils ont fait, tout ça, et puis il les prévient que, ouvrez les guillemets, certaines mesures méritaient des ajustements. Parfois, elles nécessitent une temporalité différente. Parfois, le même objectif peut être atteint par des solutions différentes. Autrement dit, de la part du président, merci, au revoir, il faut rentrer chez vous hein, maintenant, monsieur, dame, là, allez, allez, on circule, et puis laisser les professionnels de la politique s'occuper de tout.
Canu Info.
Alors pendant que tous les médias de la planète parlent dans le vide, il faut bien dire, pour savoir qui remportera l'élection présidentielle américaine, on s'intéresse moins à une autre élection qui, elle aussi, porte son poids de violence potentielle, mais dont on sait déjà qui l'a officiellement gagné, celle-là. Je veux parler de l'élection du président ivoirien. Et le suspense de la victoire était de toute façon bien plus petit que ce qui peut se passer aux États-Unis, puisque le président sortant, Alassane Ouattara, a gagné cette élection avec 94% des suffrages exprimés. Alors Ouattara a été élu pour la première fois en 2011. À l'époque, c'était le candidat de la légalité, du fair play électoral et aussi le candidat des institutions internationales. Politiquement, c'est une sorte de libéral, comme on en trouve partout, par exemple en France. Comme Macron avait travaillé à la banque Rothschild avant d'être président, Ouattara lui avait bossé au FMI. Il se présentait en 2011 contre le président précédent, Laurent Gbagbo. Alors Laurent Gbagbo, lui, qu'on pourrait qualifier de anti-impérialiste d'une part, mais aussi salement xénophobe d'autre part. Ouattara, donc, président d'une démocratie moderne et respectueuse des règles électorales, ça, c'était en 2011. Mais pour cette élection maintenant, suite au décès brusque du candidat prévu pour le parti de Ouattara, le RHDP, Ouattara lui-même a fait, ma foi, comme bon nombre de présidents africains qui ne veulent pas renoncer à leur poste, et il a tout bonnement modifié la constitution pour pouvoir se représenter. Dans son cas, c'était pas le nombre de mandats qui posait problème, c'était l'âge limite. Donc l'âge limite maximum qui était fixé à 75 ans par la constitution précédente a été supprimé. Ça tombe bien pour Ouattara, il a 78 balais. Bon, bien sûr, la modification de la Constitution a donné lieu à plein de manifestations, des manifestations qui ont été assez violemment réprimées, et puis les flics ont armé des contre-manifestants avec des machettes pour rentrer dans l'art des manifestants. Par ailleurs, pour cette élection, plein de candidatures, en particulier celle de Laurent Gbagbo, qui avait des sérieuses chances de l'emporter, ont été invalidées par le Conseil constitutionnel. Résultat, 94%. Un score à la Ben Ali, comme l'écrit le journal burkinabé l'Observateur Paalga. Résultat annexe, les candidats perdants ont annoncé dès lundi la mise en place d'un Conseil national de transition présidé par Henri Conan-Bédié, qui est un des candidats qui a fait 1 et quelques%. En clair, les perdants ne reconnaissent pas le résultat et s'apprêtent à former un gouvernement de transition, comme après une révolution, un coup d'État ou en tout cas un machin qui fait que la Constitution ne vaut plus. Résultat de tous ces résultats, des coups de feu ont d'ores et déjà été entendus hier dans les rues d'Abidjan. Alors, pour les Ivoiriens et Ivoiriennes, franchement, être gouverné par l'un ou l'autre de ces vieux schnocks libéraux et autoritaires ne fait sans doute pas une grosse différence. Mais les affrontements qui menacent, par contre, eux, ils sont assez flippants.
Chut, écoutez,
à tout moment, ils peuvent venir te prendre pour le moment qui est à leur disposition.
Papier, papier. Il est sans papier, c'est pour cela qu'on traite comme ça. Il est sans papier.
Comment l'État a tordu les lois pour s'acharner à expulser.
J'arrive pas à comprendre que je sois vraiment dans un déni de la personne.
Je vais me marier pour les papiers parce que je comprends pas les frontières. Si quelqu'un pouvait m'expliquer pourquoi on a dessiné des lignes par terre. Dès que les lois mises en place. Dès que les lois mises en place.
Témoignage, blabla, info, contre la machine à expulser.
Il y a beau ne plus avoir aucun navire humanitaire sillonnant les côtes libyennes pour secourir d'éventuels naufragés, il y a toujours autant de traversées ou de tentatives de traversée. En seulement 2 jours, 550 personnes ont été interceptées à bord d'embarcations par les gardes-côtes libyens et ramenées en Libye. L'OIM, l'Organisation internationale des migrations, présente sur place pour fournir de l'aide d'urgence aux personnes rapatriées, réaffirme que la Libye ne peut pas être considérée comme un port sûr. Sauf que, il n'y a plus de bateaux humanitaires sur la zone, car la plupart d'entre eux sont retenus en Italie sous couvert d'irrégularités techniques. Et la différence entre une ONG comme Sea-Watch et des gardes-côtes libyens, c'est, en plus de ne pas se faire maltraiter à bord du bateau, qu'aucune ONG ne ramène les personnes secourues en Libye. Il ne reste donc plus que les gardes-côtes libyens pour non pas secourir les personnes, mais les intercepter et les ramener à leur port de départ. D'après les chiffres de l'OIM, depuis janvier, 10 398 personnes, dont 692 femmes et 556 mineurs, ont été interceptées en mer et renvoyées dans un port libyen, contre 9225 pour l'ensemble de l'année 2019. Plus de 200 personnes sont mortes en tentant de rejoindre les côtes européennes et 337 ont disparu en mer.
Canu Info. Du mercredi.
Quelques nouvelles d'Algérie maintenant. Le président Tebboune a dû quitter le pays, il est hospitalisé en Allemagne, il fait, le pauvre, une forme grave du coronavirus. Alors, 74 balais, gros fumeur, on dirait qu'il tente le coup d'être le premier chef d'État à y passer et qu'il a ses chances, mais enfin on n'en sait rien. Vous allez me dire, en Algérie ça serait pas grave, on sait y faire. S'il y passe, on l'empaille, on met un petit moteur d'automate façon déco de Noël à la Pardieu, et il peut nous faire encore 2 mandats, comme l'a bien montré avant lui le président Bouteflika. Non, c'est pas sur un virus qu'il va falloir compter pour changer l'Algérie, mais c'est sans doute encore maintenant sur le peuple algérien. Depuis février 2019 et la naissance du Hirak, le mouvement qui a contesté d'abord le président marionnette Bouteflika, puis le système qu'il avait maintenu au pouvoir et qui est maintenant derrière Abdelmadjid Tebboune, la contestation ne faiblit pas. Avec le coronavirus, elle est moins visible, puisque les manifestations n'ont plus lieu les vendredis. Mais quand le président, pour asseoir sa légitimité et montrer que lui aussi veut la fin de ce système, parce que lui, c'est quand même, il est gentil, c'est pas pareil, quand ce président organise un référendum pour approuver des changements constitutionnels, le Hirak n'a même pas besoin de se montrer beaucoup. Voilà, le référendum a lieu ce week-end. Il a été préparé dans un contexte de répression maximale. Militants, opposants politiques, journalistes, internautes s'en sont pris plein la gueule. Selon le Comité national pour la libération des détenus qui soutient les prisonniers d'opinion en Algérie, quelques 90 personnes sont actuellement derrière les barreaux, la plupart pour des publications sur Facebook. Alors, c'est vrai, ce week-end, c'est le oui qu'il a emporté au référendum. 66%, ça serait même un joli score. Le seul problème pour Tebboune et pour le système, c'est le taux de participation, 23,7%. Ce qui veut dire que plus de 3 Algériens et Algériennes sur 4 se sont pas du tout fait chier à aller dire oui ou non à un ravalement de façade destiné à garder toujours la même caste au pouvoir. Déjà, pour l'élection de Tebboune, l'abstention avait dépassé les 60%, mais c'est comme si la situation s'était encore empirée pour lui depuis son élection, parce que là, c'est 75,3% d'abstention. C'est simplement l'abstention la plus forte jamais enregistrée depuis l'indépendance du pays. Alors Abdelmadjid, mesquine, on dirait que ton siège ne tient pas beaucoup mieux que celui de ton prédécesseur.
Radio Canu. Canu Info. Du mercredi.
Et pour finir, un petit conseil de lecture. Il s'agit d'un article qu'on trouve cette semaine sur Lundi Matin du philosophe Alain Brossa. L'article s'appelle « Un long hiver républicain ». Alors ça cause des histoires autour de la décapitation de Samuel Paty. Et en termes de droit au blasphème, ça se pose un peu là. Parce que Brossa n'hésite pas à blasphémer. Non pas la religion d'une bonne partie des classes populaires de ce pays, comme on est plus ou moins sommé de le faire dès qu'on parle de tout ça. Mais il bel et bien, ce qu'il blasphème, c'est la religion ultra-majoritaire, la religion des élites, des classes dominantes et de beaucoup plus de monde que ça, puisque c'est aussi la religion de toutes celles et ceux qui accordent à ces élites, à ces classes dominantes, leur légitimité. La religion qui nous est imposée et à propos de laquelle on parle jamais de droit au blasphème, la religion de la République. Et dans la foulée, Brossa va même jusqu'à parler irrespectueusement du dernier martyr en date de cette grande religion. Un truc de dingue. Alors il commence fort, il refuse de se plier à cette espèce de rite langagier qui veut que dès qu'on prononce le nom de Samuel Paty, on doive dire quelques mots autour de l'horreur de sa mort. Cette pratique verbale n'est même plus simplement majoritaire, elle est à peu près universelle. Du coup, Brossa s'en passe tout simplement et il dit qu'il s'en passe. Et il continue encore plus fort puisqu'il se penche sur l'opportunité pédagogique et même sociale de montrer à une classe les fameuses caricatures. Et sur le message subliminal, derrière le message, quand on montre ces caricatures, qu'est-ce que ça veut dire? Je vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir cet article, il est passionnant et il est, je dirais qu'il est ultra punk, quoi. C'est sur le site Lundi Matin, c'est l'article qui s'appelle « Un long hiver républicain » de Alain Brossa.
Radio Canu.
C'était Canu Info, c'était Canu Info, c'était Canu Info du mercredi. C'était Canu Info, c'était Canu Info, c'était Canu Info du mercredi.
Retrouvez le Canu Info tous les jours de la semaine de 19h à 20h sur le 102.2. Et en réécoute et en podcast sur le site de la radio www.radiocanu.org.
C'était le Canu Info, c'était le Canu Info, c'était le Canu Info du mercredi.
Plus rebelle des radios.